Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Alors, je vous remercie d'être venus, passablement nombreux. J'aurais presque espéré que vous le soyez moins. Je me pensais qu'avec moins de 10 personnes, on pouvait passer directement à table et annuler la conférence. Je vous aurais quand même parlé du sujet en mangeant. J'aurais été plus à l'aise que devant un micro. Moi, ça fait rien, je vais quand même essayer de continuer. Alors, le sujet est difficile. Je dois vous dire tout de suite, c'est peut-être inutile de le préciser, je le fais quand même, que la procréation artificielle ne fait pas partie de ma pratique de tous les jours. Et puis, je ne suis pas non plus député aux États, et donc je ne suis pas vraiment habitué à l'étude des textes constitutionnels, des avant-projets de loi, de toutes ces choses. Par exemple, ce genre de document, vous voyez, c'est écrit en, ça fait 400, je ne sais pas combien de pages, c'est écrit en tout petit, sur papier recyclé, les trois quarts en allemand. Et puis bon, il n'y a pas de photo, pas d'image, c'est assez ardu. Alors voilà, enfin vous inquiétez pas, je vais essayer quand même, je ne vais pas m'arrêter ici, je vais continuer ma conférence. Alors, dans une première partie, je vais faire un survol de l'évolution culturelle et des événements politiques qui nous ont amenés dans la situation où nous sommes, où nous avons ressenti la nécessité de légiférer, de créer une loi sur la procréation artificielle. Dans la deuxième partie de mon exposé, je vais vous faire une courte présentation sur la méthode de la fécondation in vitro. Donc, c'est la pratique, la méthode principale, disons, de la procréation artificielle. Et puis, quelques réflexions sur l'embryon humain. Ceci m'amènera au troisième point de cet exposé, la dernière partie, où je vous commenterai le texte législatif que nous avons actuellement en notre possession. Alors, je voudrais d'abord dire qu'il ne faut pas confondre procréation artificielle et manipulation génétique. On parle toujours de la loi sur la manipulation génétique. Alors, il faut bien distinguer les deux choses. C'est pas la même chose, c'est pas pareil. Même s'il y a des rapprochements. Il est vrai que l'article constitutionnel qui a été voté en 1992 mélangeait les deux sujets. Il le faisait de façon assez habile, parce que donc la population, pour se protéger des manipulations génétiques, a dû accepter que la procréation artificielle soit légalement autorisée. Un autre point commun de ces deux domaines, c'est l'inadéquation entre un savoir-faire technique très développé, un pouvoir sur la matière vivante qui est devenu absolument énorme, et un vide philosophique et moral qui caractérise notre société. Vous vous rappelez donc de l'adage de Montaigne qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et c'est particulièrement vrai à notre époque. Ce phénomène s'est produit, on pourrait dire, schématiquement en deux étapes. Il y a d'abord eu une évolution des mentalités, quelque chose qui a été en fait salué comme très positif, un grand progrès, avec en particulier une dissociation entre la procréation et la sexualité, une disparition du cadre moral, philosophique, qui conditionnait auparavant le comportement de l'homme en société. L'effondrement de l'Église, puis la disparition de son influence, tout ça a vécu, disons, comme un progrès, une libération. J'ai lu quelque part, il n'y a pas très longtemps, au sujet de la création d'une société de bioéthique, que nous étions dans une société de polythéisme axiologique. Je trouve ce terme très, très joli, c'est bien dit. Je suspecterais d'ailleurs le mouvement chrétien conservateur d'aller un peu contre cette tendance et puis d'être plutôt inspiré par un monothéisme axiologique. Si vous voulez vous définir, vous pouvez peut-être dire que vous êtes des monothéistes axiologiques. Donc ce n'est pas une insulte, c'est pour vous aider à vous situer. Alors, après l'explosion de ces connaissances, du savoir-faire, après donc cette évolution culturelle, morale, philosophique, il y a eu une explosion des connaissances et du savoir-faire technique en biologie moléculaire et dans le domaine de la reproduction. Comme par hasard, c'est dans ce contexte de vide philosophique, de fragilité, que sont apparues ces techniques. Alors, on se sent malgré tout désarmé devant cette progression de ces techniques, devant ce pouvoir, et on ne sait plus très bien au nom de quel principe on pourrait limiter les abus. D'ailleurs, comment peut-on définir les abus? On ne sait plus trop bien comment faire. Alors on ne voudrait pas renoncer à l'évolution culturelle, morale, mais on a quand même peur de ce nouveau pouvoir, où on ressent le manque de barrières et de limites. Pouvoir donc qu'a l'homme sur lui-même, ou plutôt le pouvoir de certains hommes sur les autres. Alors donc un rappel sur des événements politiques. Dans ce contexte de malaise, il y a eu d'abord les interdictions de la procréation assistée, de l'insémination hétérologue, je crois, dans le canton de Bâle, et puis Saint-Gall. Et ces interdictions, ces lois cantonales, ont été annulées, abolies par le tribunal fédéral. Dans ce contexte de vide juridique, de vide législatif qui persistait, il a été élaboré un texte prévu pour être inséré dans la Constitution, un nouveau texte constitutionnel, et qui a été ensuite soumis à un référendum par les oppositions de différents mouvements, et voté malgré tout à majorité par la population, et à l'unanimité par les cantons, sauf le canton du Valais, qui a dit non à ce texte constitutionnel. Malgré ceci, malgré cet échec pour les mouvements donc pro-life, comme on les appelle maintenant, une initiative populaire interdisant la procréation artificielle et l'insémination hétérologue a pu aboutir, a été déposée, et on attend maintenant qu'elle soit soumise à votation. Les choses d'ailleurs ne vont pas très vite, parce que ça, donc c'était en 1992. En 1995, je vérifie juste la date encore, attendez. Oui, c'est ça, en 1995, apparaît un avant-projet de loi. En 1996, il est soumis à consultation. Le recueil des remarques des organismes consultés est paru là-dedans en août 96. Et puis voilà, maintenant, on est toujours au même point. C'est donc seulement un avant-projet de loi avec les différentes remarques, différentes objections qui est en notre possession. D'après ce que je sais, ce n'est pas allé plus loin. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Sinon, ça ne servira à rien, tout ce que je dirais. Donc vous voyez, ça ne va pas très vite. Alors maintenant, je voudrais juste aborder le sujet de la procréation, de la fécondation in vitro, proprement dit, pour comprendre un peu tout ce qu'on va discuter après dans le projet de loi. J'ai sûr quelques rappels, techniques. Alors, comment fait-on les bébés en éprouvette? Il faut d'abord, je m'excuse de peut-être, c'est peut-être banal et puis élémentaire, mais il faut aller par étapes. Il faut d'abord mettre ensemble deux cellules germinales, deux gamètes, mâles et femelles, spermatozoïdes et ovules, qui se rejoignent et qui donnent lieu à un embryon. Alors, pour ça, normalement ça se passe dans le corps de la femme. Quand c'est artificiel, ça se passe à l'extérieur. Il faut d'abord recueillir ces cellules. Pour le recueil de spermatozoïdes, ce n'est pas vraiment un grand problème technique. Je pense que c'est pas nécessaire de vous donner des détails techniques, comme on fait, sur la façon de procéder. C'est la partie la plus naturelle de la procréation artificielle. Il faut juste simplement un récipient comme équipement. Alors, les spermatozoïdes ont l'avantage de pouvoir se congeler. On peut le mettre au frigo pour une utilisation ultérieure, c'est bien pratique. Les ovules, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus délicat à recueillir. C'est une marchandise déjà rare et précieuse, dont l'obtention nécessite une technique plus raffinée que pour le recueil de sperme. D'abord, il y en a déjà beaucoup moins. Les spermatozoïdes, vous en avez tant que vous voulez. En principe, quand il n'y a pas d'infertilité masculine, bien sûr. Un ovule, ben, un par cycle, ça ne fait pas beaucoup. Et il reste dans le corps de la femme. Il a une durée de vie limitée à 3 jours. Il faut donc aller le chercher. Alors, il faut procéder à une petite intervention chirurgicale. Et puis, de plus, pour l'instant, il n'est pas congélable. Alors, le taux de succès de la fécondation in vitro, d'un cycle de fécondation in vitro et d'une grossesse après l'implantation d'un embryon, est relativement faible. Donc, ça ne vaudrait pas le coup de faire tout ça pour de faire un recueil d'ovules pour un seul ovule. Ce serait relativement lourd. Les chances d'échec après pour la fécondation in vitro et la poursuite de la grossesse après l'implantation sont quand même pas très grandes. On dit les meilleurs chiffres, c'est 25% par cycle. Alors ça ne vaut pas le coup de recueillir un ovule à la fois. Il faut donc que la femme subisse un traitement qui stimule les ovaires et qui lui fasse produire plusieurs ovules à chaque cycle. Donc elle doit se soumettre à une surveillance échographique. Et on détermine le moment de l'opération où l'on peut cueillir les ovules mûrs sur les ovaires. Alors là, on en arrive à recueillir 10. C'est déjà mieux que naturellement. Certains progrès de ce côté-là. Alors une fois dehors, les ovules, comme je vous l'ai dit, ne se conservent pas au froid. On ne peut pas les mettre au frigidaire, au congélateur. Il faut en faire, et puis ils ne survivent pas longtemps, il faut tous les féconder. On se retrouve alors devant le problème délicat des embryons surnuméraires. On a créé ainsi un grand nombre d'embryons. Et à tous ces embryons surnuméraires, on ne peut pas offrir la possibilité de continuer leur développement. Alors, on pourrait éventuellement tous les implanter dans l'utérus, 10 à la fois. Et là, il y a effectivement une chance que sur les 10, il y en ait quelques-uns qui continuent à se développer. Mais si un trop grand nombre parvient à se développer, il faut en tuer une partie. Et c'est ce qu'on appelle une réduction embryonnaire. La deuxième solution, la plus utilisée, c'est d'implanter seulement 3 embryons sur les 10, et on congèle les autres. Car contrairement aux ovules, les embryons peuvent se congeler. Alors si un premier cycle de traitement échoue, on peut directement réimplanter un autre embryon, on va chercher dans le congélateur, et puis on dégèle, et puis on implante. Et on n'a pas besoin de répéter toute la procédure de recueil, de stimulation ovarienne, surveillance échographique et intervention, on appelle ça la laparoscopie, un tube dans le ventre pour aller chercher ses ovaires. Donc ça permet, on peut le faire qu'une fois. Et on a un stock d'embryons à disposition. On peut faire 2 cycles, encore au moins. Alors c'est un avantage sur le plan technique. Mais sur le plan psychologique et moral, c'est aussi un inconvénient. C'est un côté, un peu répugnant. Ça ne fait pas très sympathique. Ça choque un peu la sensibilité. Ça pourrait choquer la sensibilité de nos contemporains. Ça fait quand même une tâche sur l'aspect miraculeux, l'aspect merveilleux de cette fécondation in vitro, où effectivement un couple stérile peut avoir un enfant biologique. Ça ne fait pas très propre. Les embryons qu'on n'a pas pu utiliser, qui encombrent les congélateurs, on ne sait plus ce qu'il faut en faire. Alors, on demande aux couples qui les ont laissés de se signaler. On ne reçoit pas de réponse, et puis ben, il faut les détruire. Ça ne fait pas une très bonne publicité pour cette méthode. Et puis, ça nous amène aussi à nous poser des questions qu'on n'avait pas besoin finalement de se poser auparavant, qui ne venaient pas à l'esprit auparavant. C'est de se demander, mais finalement, qu'est-ce que c'est un embryon? Un embryon humain, âgé de quelques heures, quelques jours, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut? Et puis, d'abord, qu'est-ce que c'est? Puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment on doit se comporter devant? Il faut définir son statut d'abord, et puis après, pour savoir comment se comporter avec lui. Donc définir sa nature, et là on retombe dans le domaine un peu de la métaphysique. Alors je vais faire encore une petite digression sur l'embryon humain. On va réfléchir ensemble sur ce que c'est un embryon humain. En apparence, physiquement, c'est pas grand-chose. C'est une cellule, deux cellules, ça peut se voir qu'au microscope. Ça n'a aucune apparence humaine. Et puis, c'est vrai que c'est difficile. C'est à la fois un ovule qui vient d'être fécondé. Donc ça pourrait être encore une cellule germinale, une cellule femelle, un gamète. C'est aussi une cellule totipotente, c'est-à-dire une seule cellule qui peut donner tous les constituants de l'organisme adulte. Et puis bon, bah c'est quand même un embryon, malgré tout. Alors, on a du mal à définir cette entité. On dit que ce n'est pas une personne, en raison de la pratique de l'avortement. Ça. Mais ça fait quand même partie de l'espèce humaine, on ne peut pas le nier. Et si ce n'est pas une personne, ce n'est quand même pas non plus une chose. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un animal ? Un sous-homme ? Un homoïde ? Un humanoïde ? Enfin, on est un peu coincé. Et puis, alors, on assiste à la création d'une nouvelle espèce intermédiaire entre l'homme et l'animal. On est obligé de créer de nouvelles conceptions, une nouvelle créature. Les civilisations païennes de l'Antiquité avaient créé les demi-dieux. Quand Jupiter faisait quelques infidélités à Junon, descendait sur Terre et puis il capturait une mortelle. Et puis après, il y avait des demi-dieux entre l'homme et le dieu, un hybride en quelque sorte. Alors, c'était une création de la civilisation païenne antique. Et notre civilisation, elle a inventé des demi-hommes dans la personne des embryons. Mais là, il y a un changement d'espèce au cours du temps. C'est-à-dire que ce demi-homme ne reste pas demi-homme. Un jour, de toute façon, il devient une personne humaine. Alors, et même si on dit que l'embryon est un demi-homme, ça ne nous avance pas tellement sur le côté pratique. Parce que finalement, devant un demi-homme, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Est-ce qu'on peut le tuer ? Est-ce qu'il a droit aux droits de l'homme ? Ou pas droit ? Alors, depuis l'embryon, j'aimerais juste faire une petite discrétion, une de plus. Mais après, je reviens au sujet initial, vous inquiétez pas. Par exemple, l'australopithèque. Vous savez tous ce que c'est un australopithèque ? Non ? Ah, alors que j'explique ce qu'est un australopithèque, ça va encore mieux. Retarder le moment où on va pouvoir se mettre à table. Alors, l'australopithèque, c'est quelques os qu'on a retrouvés, un squelette, ou la moitié d'un squelette, je ne sais plus exactement. On n'a pas pu vraiment définir ce que c'était, c'était pas un singe, c'était pas un homme. Alors on en a fait, à une époque, peut-être qu'on est revenu là-dessus maintenant, mais on en a fait le maillon manquant dans la théorie de l'évolution entre le singe et l'homme. C'est vrai, il y avait le singe, après le singe est devenu homme, mais entre les deux, il manque quelques éléments. Alors voilà, on a trouvé l'australopithèque. Donc ce n'est plus un animal, ce n'est plus un singe, mais ce n'est pas encore vraiment un homme. Donc à quoi il pouvait ressembler ? Il ne devait pas être très beau, sans doute assez poilu, les mains qui tombaient déjà un peu jusqu'aux genoux. Enfin, c'était. Donc c'est un demi-homme qui sert de maillon manquant dans la chaîne de l'évolution. Alors supposez maintenant que dans un coin inexploré de la Terre, on trouve une tribu, un peuple d'Australopithèques. Vous voyez, donc on aurait tous ces gens-là, et puis après, on les amènerait ici, il y aurait des échanges. Mais enfin, ils ne seraient vraiment pas tout à fait comme nous, ça poserait des problèmes, il y aurait des conflits d'intérêts. Peut-être que ça pourrait être dangereux, on pourrait se faire mordre, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là ? C'est pas des animaux, c'est pas des hommes. Est-ce qu'on peut c'est des demi-hommes. Est-ce qu'on peut les tuer? Est-ce que ils ont moins de droits que les vrais hommes? Vous voyez donc la création de la. Classer l'embryon dans la catégorie d'un demi-homme, c'est pas. Ou d'une chose qui n'est pas un animal, mais qui n'est pas un homme, ça ne résout pas vraiment le problème. Ça n'avance pas tellement pour savoir comment ce qu'il faut faire devant. Il y a une autre solution qui est proposée, c'est que l'embryon, c'est rien du tout. C'est simplement, c'est un petit amas de chair, une cellule, quelques cellules. Ça n'a pas de personnalité, sauf s'il y a un projet parental. Voilà, alors il y a un projet parental, un désir d'enfant, et cet embryon est investi alors d'une humanité. C'est un peu, disons, une conception qu'on retrouve. Maintenant, ce qui s'impose, ça a été dit de façon explicite, mais ça s'impose maintenant de façon implicite, un peu dans la pratique actuelle. Alors la volonté, le désir des parents, revêt l'embryon de son humanité. Alors c'est déjà plus de la procréation, c'est de la création. À partir de rien, on crée un homme. Si on veut pas que ça soit un homme, c'est pas un homme. Si on veut que ça soit un homme, c'est un homme. Voilà, c'est, je pense, donc il est. Alors, c'est un pouvoir que, avant, on attribuait à Dieu. C'est vrai. Il y a encore quelques, actuellement, dans nos sociétés, des obscurantistes, qui viennent encore du Moyen-Âge, une secte encore inspirée et étriquée par les principes judéo-chrétiens, qui pensent que, dès la conception, il y a un projet de Dieu, et que bon, donc cet embryon, à quel que soit le stade où il est, dès la fusion des deux cellules, c'est déjà donc c'est la concrétisation, c'est la réalisation d'un plan divin, d'un projet de Dieu, qu'on le veuille ou non. Et là, donc, la décision parentale n'intervient pas. Il est là, il existe. C'est une créature. Il est programmé. Et donc, c'est sacré. C'est un domaine dans lequel on ne rentre pas. Bon, ben, ça, c'est une opinion d'une minorité, vous inquiétez pas. Sinon, ce serait un retour au Moyen-Âge. Alors, je voudrais donc bien vite vous rassurer. Ah, donc, à propos du Moyen-Âge, je voudrais juste vous dire que... Enfin, j'avance dans mes réflexions. On va essayer de réfléchir ensemble. À l'époque scientiste, c'est-à-dire une génération avant nous, il était de bon temps de se moquer de nos ancêtres du Moyen-Âge, de leur conception philosophique et religieuse, de leur discussion métaphysique sur la nature de l'être, l'essence de l'être, la création, la divinité, sur les anges, sur l'âme. C'était vraiment... Il y a une génération en arrière, ça semblait ridicule de discuter furieusement de sujets qui n'étaient pas scientifiques, de choses qui n'étaient pas démontrables avec des arguments scientifiques. De discussions métaphysiques. Et on appelait ça, ce genre de débat, avec mépris, discuter sur le sexe des anges, par référence aux discussions, aux débats du Moyen-Âge. Mais paradoxalement, actuellement, c'est en grande partie le développement technologique, le développement scientifique, qui nous ramène au Moyen-Âge, avec l'avancée des sciences et ce qu'on voit arriver maintenant, on est obligé de rediscuter de choses un peu essentielles, de choses métaphysiques, comme au Moyen-Âge. La différence, c'est que les gens du Moyen-Âge auraient sans doute moins de peine à trouver une réponse à toutes ces questions. Ils auraient sans doute fait référence à Dieu, à l'existence de l'âme. Mais maintenant, donc, c'est des notions qui ont disparu de nos sociétés, disons, en tout cas de façon publique. Ça reste au niveau individuel. Dans ce cas-là, c'est assez respectable. Disons, c'est un peu comme le Père Noël, la petite souris, ou le lapin de Pâques, chez l'enfant à partir d'un certain âge. Ça ne fait plus trop sérieux, maintenant, de mettre ça dans des discussions éthiques, morales. Alors... Nos politiciens qui doivent légiférer, nos philosophes, les scientifiques, les théologiens, qui constituent donc les commissions d'éthique, n'ont plus ces références. Ils sont très embarrassés. On peut quand même discuter, mais c'est quand même pas très facile. Et ils doivent prendre des dispositions légales, des dispositions pratiques, en s'appuyant sur des conceptions, sur des discussions, des débats métaphysiques, sur de la métaphysique, sans référence à Dieu ni à l'âme, parce que, bon, ça ne serait pas très sérieux. Et puis que c'est maintenant quelque chose de tout à fait individuel. Alors il faut dire que leur travail n'est vraiment pas facile. Il faut se mettre à leur place. Justement, à ce propos, je fais une petite anticipation dans cet ouvrage. Donc la prise de position du canton du Valais au sujet donc de l'avant-projet de loi. Qu'est-ce qu'ils disent ? Voilà. Lorsqu'il élabore des dispositions pour protéger ses valeurs, donc les valeurs essentielles, le législateur doit, dans toute la mesure du possible, rechercher le respect de toutes les opinions, même si celles-ci sont parfois très divergentes. Alors, vous voyez, c'est quand même pas très facile. Il y en a qui disent l'embryon, c'est pas un homme. D'autres qui disent l'embryon, c'est un homme. Il faut essayer de mettre tout le monde d'accord. C'est comme si quelqu'un dit il pleut, l'autre dit il pleut pas. Il faut arriver à un consensus. C'est un peu mission impossible. Donc vraiment pas un travail facile. Mettez-vous à leur place. Dans les conditions où ils sont, il est finalement pas étonnant qu'ils ils finissent par faire des lois incohérentes, illogiques, contradictoires, tirées par les cheveux, éventuellement ridicules et probablement inapplicables. Alors, il ne faudra pas se moquer méchamment de cet avant-projet de loi, de nos législateurs non plus. Je fais appel à votre compréhension, votre indulgence. Alors j'en arrive maintenant à la troisième et dernière partie de mon exposé. Je n'ai pas loupé des feuilles. Bon. Je vais vous parler du résultat des cogitations de nos législateurs dans les difficultés dans lesquelles ils se débattent. Alors, nous avons un texte constitutionnel, déjà, qui a été accepté par référendum en 1992. Ce texte, il faut bien voir, ce ne sont que des principes généraux. Alors, pour les appliquer, ces principes, il faut fabriquer une loi d'exécution, une loi d'application. Ça, vous voyez que ça n'a pas été très, ça, c'est pas très facile parce que ça prend du temps. 1992, la votation de ce texte. 1997, ben, c'est toujours un avant-projet de loi qui est en travail. Alors, je vais juste vous citer quelques passages de ce texte constitutionnel. Donc, c'est l'essentiel, hein, c'est la base. Puis, vous voyez que c'est beaucoup plus concis, c'est beaucoup plus court que cet ouvrage, qui est en fait la discussion de l'avant-projet. Vous voyez, ça tient sur... ça va de là jusqu'à là. Voilà, vous voyez, ça fait une demi-page. Hein. Alors, c'est l'article 24, on dit novies. Alors, l'homme et son environnement sont protégés contre les abus en matière de techniques de procréation et de génie génétique. Donc là, il n'y a rien à dire, hein. On est bien content. Je vous lis pas tout, hein, je vous cite juste quelques éléments. Le patrimoine germinal et génétique non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain, ni fusionné avec celui-ci. Donc, pas de crainte, on ne peut pas prendre des chromosomes ou du matériel génétique de gorille, le mélanger avec celui d'un homme, et puis se fabriquer un garde du corps ou bien une petite armée. Bon, il y aurait une tentation, c'est clair. Mais voilà, maintenant c'est interdit, on est tranquille. Alors, ensuite, le recours aux méthodes de procréation assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière. Voilà, donc ça veut dire en clair, on autorise la procréation artificielle. Mais on ne peut pas faire, ils disent, il y a une restriction, on ne peut pas faire de la recherche, ni pour développer chez l'enfant certaines qualités. Donc, pas d'eugénisme, probablement. Pas de sélection. L'accès d'une personne aux données relatives à son ascendance est garanti. Ça veut dire, pour l'insémination artificielle hétérologue, que l'enfant pourra identifier son père biologique, le donneur de sperme. On en parlera peut-être plus tard ou bien pas. Bon, c'est pas vraiment le point essentiel. Et ensuite, je pense là un point absolument capital. vraiment un point essentiel, qui est, je crois, d'ailleurs, ce qui a permis à cette loi, à ce texte constitutionnel de passer. C'était un peu la confiture sur le morceau de pain pour faire avaler tout le morceau, toute la tartine. C'est celui-ci. Donc, ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés. Donc, une restriction de taille assez rassurante. On ne peut pas donc faire des embryons partout, les développer. En fait, en clair, cela veut dire interdiction de conserver des embryons. On ne peut pas mettre les embryons au congélateur avec cette. Si on prend à la lettre ce texte. C'est donc une restriction qui, je pense, a notablement rassuré la population et qui, je crois, a permis en partie, en grande partie, l'acceptation en votation de ce texte constitutionnel. Mais c'est maintenant, c'était bien pratique pour les votations, maintenant c'est un point faible, un point contradictoire de la loi qui est en élaboration, parce qu'en théorie, on autorise la fécondation in vitro pour un couple stérile, puis en pratique, on l'empêche. Parce que la pratique de la fécondation in vitro, comme je vous l'ai expliqué auparavant, elle est dépendante de la congélation d'embryons. Si on ne peut pas congeler les embryons, ben les femmes ne vont pas se soumettre à des procédures de recueil d'ovules pour un seul ovule. Puis chaque fois recommencer, quand dans les trois quarts des cas, ça échoue. Alors, comment on arrive à faire pour autoriser puis interdire à la fois? Comment faire? Les finesses législatives. Alors, il faut trouver un tour de passe-passe. Quel est-il? Je vais vous le dire plus tard. Alors là, je vais essayer de ne pas me perdre parce que j'ai plus le temps de mettre au propre mes notes. Je vais essayer de me retrouver dans tous mes petits papiers. J'en ai déjà perdu, hein. C'est embêtant. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé. Nous avons maintenant donc ce projet, cet avant-projet relatif à une loi fédérale concernant la procréation médicalement assistée et instituant une commission nationale d'éthique. Je cite. Entre parenthèses, on a résumé ça par l'intitulé « Loi sur la médecine humaine ». Je ne trouve pas tellement que ça soit de la médecine, mais bon, voilà. On a appelé ça comme ça, pour résumer. Et on peut même abréger LMH. Donc, comme on parle de LMH, vous saurez de quoi il s'agit.
C'est pas les HLM.
Non, c'est quoi? Oui, c'est HLM, LMH. Ne pas confondre. Je vous lis donc le résumé que nous a fait le chancelier, hein, Arnaud de Colère. Chef du département fédéral, conseiller d'État, pardon. Conseiller fédéral, pardon. Mais, pardon. Manque de culture politique. Alors, il nous dit, le diagnostic préimplantatoire sur les cellules totipotentes de l'embryon est interdit. Nous en reparlerons après. Seuls les couples en âge de procréer pourront bénéficier d'un traitement. En outre, le don de sperme est réservé aux couples mariés. Pas la procréation artificielle par fécondation in vitro, mais le don de sperme. Le don d'ovule est interdit, le don d'embryon est interdit, ainsi que la maternité de substitution. Pas de mère porteuse. Il interdit. Donc l'enfant conçu au moyen d'un don de sperme a le droit de connaître les données d'identification relatives au donneur. Mais il exclut en action une constatation de filiation à l'égard du donneur de sperme. C'est-à-dire que, rassurez-vous, si vous avez donné du sperme, puis que vous avez 10, parce que vous pouvez aller jusqu'à 10, hein, avec, au niveau de la fécondation. Après, il y a une limite, ou 6. Enfin bon, bref, c'est limité. Hein. Donc, avec le sperme, vous pouvez féconder 10 ovules, différentes femmes. ou de la même femme, 10 enfants. Vous pouvez avoir 10 enfants par don de sperme. Donc, si jamais vous les voyez appliquer chez vous, puis qu'ils essayent de, je sais pas, de vous taper, de vous, enfin, de vous soutirer de l'argent, tout ça, vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de filiation au sens de la loi. Donc, déjà, on est rassuré. Mais enfin, ça, c'est vrai que ça va quand même peut-être limiter les bonnes volontés. C'est-à-dire que, il y aura peut-être moins, il y aura certainement une réticence à donner du sperme dans ces conditions-là. Ça, c'est vrai que ça met un obstacle. Alors, et puis le point essentiel du texte constitutionnel et de cet avant-projet de loi, et puis de la loi plus tard, peut-être, j'espère, c'est qu'il interdit en principe, il y a un petit mot là, qui est gênant, mais enfin bon, la conservation d'embryons. Alors, il interdit la conservation d'embryons. Non, il interdit en principe la conservation d'embryons. Donc, l'avant-projet de loi. Bon, alors, l'interdiction. Donc, les embryons ne peuvent pas être congelés, ça le confirme, en principe.
Et en réalité ?
Alors, attendez, je vous en parle après. Attendez. Alors, maintenant, il faut que je me retrouve dans mes petites notes. Ouh là 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 là. Quand on, je ne vais pas vous lire donc tous les cet avant-projet de loi, ça tient dans cette, il n'y en a pas beaucoup, c'est relativement court. Il y a un avant-projet donc qui est là dans quelques pages, et puis bon, il y a un rapport explicatif, c'est déjà beaucoup plus épais. Il faut expliquer un peu tout ça, vous voyez, ça fait quatre fois le volume, quatre fois le volume pour expliquer. Je vous rappelle juste le titre de l'avant-projet, relatif à une loi fédérale concernant la procréation médicalement assistée et instituant une commission nationale d'éthique. Bon, ça, on n'en avait pas tellement parlé dans le texte constitutionnel. Je crois pas. Alors, voyez, donc, création d'un un nouveau magistère. Avant, il y avait le magistère de l'Église. Bon, bah, maintenant, c'est disparu, on s'en est débarrassé. Et puis voilà, il faut en refaire un, maintenant, vous voyez. Commission nationale d'éthique. Donc, des sages qui vont rassurer l'homme politique et puis vous lui dire si on peut faire ça ou pas faire ça. Et puis, bon, ma foi, s'il y a quelque chose qui se fait et puis que c'est pas vraiment très propre, pas très assez discutable, on dira, ben, il y a le magistère qui a prononcé son arrêt. Bon, c'est vrai que c'est d'un côté, c'est important, c'est bien d'avoir une assemblée, une commission d'éthique qui donne les choses. C'est à double tranchant. Donc, juste une remarque en passant. Mais, vous voyez, quand même, retour au Moyen-Âge, on doit recréer un magistère. Alors, si on lit cette loi, on voit que, quand même, c'est finalement très, très restrictif. On est quand même surpris. Et c'est restrictif au point que ça ne correspond pas du tout à la pratique actuelle, surtout en matière d'avortement. C'est bien en retrait. Et je pense que ça, c'est un point faible. Enfin, c'est bien d'un côté, mais c'est quand même un point faible. D'abord, je vais commencer à vous lire les remarques. Les organismes consultés. Alors, juste parenthèse, donc tout le monde a été... C'est très large hein, comme consultation. Bon, bien sûr, il y a le tribunal fédéral, il y a des tribunaux, il y a tous les cantons, il y a les partis politiques, et puis des tas d'associations intéressées, des psychologues, les associations professionnelles, de légistes, de médecins, des femmes qui sont contre la technique de reproduction, une organisation pour les problèmes des femmes, l'Académie suisse des sciences médicales, bon, c'est quand même moins des choses, l'Église évangélique, les églises, la conférence épiscopale, et puis après, il y a des participants non officiels, alors il y a des associations de lesbiennes, centre hospitalier universitaire vaudois, l'évêque de Sion, aider au lieu de tuer, et puis il y a Oui à la vie, section valaisanne, médecin cantonal du canton de Vaud, Puis les personnalités. Monsieur Zwicky Eberhardt, qui est président de la... Je crois qu'il a un parti politique évangélique. C'est le président du parti politique. Enfin, ça s'appelle comme ça. Puis il était président de Oui à la Vie, ancien président de Oui à la Vie. Je vous lis peut-être tout de suite la prise de position du canton du Valais. Ça nous intéresse un peu plus. Je vous avais déjà lu un extrait. Maintenant, je vais vous lire le texte en entier. Vouloir remédier par la procréation médicalement assistée aux souffrances des personnes qui ne peuvent concevoir de manière naturelle est une approche positive qui appelle toutefois une soigneuse pesée des intérêts en cause et une prise de position sur des valeurs essentielles. Alors après, donc, il y a le législateur. Hein, lorsqu'il élabore des dispositions pour protéger ces valeurs, le législateur doit, dans toute la mesure du possible, rechercher le respect de toutes les opinions, même si celles-ci sont parfois très divergentes. À titre d'exemple, vous trouverez en annexe les prises de position de l'évêque de Sion et de l'association Oui à la Vie, qui relèvent notamment les droits inaliénables de tout être humain, entre parenthèses le droit à la vie et à l'intégrité physique depuis la conception jusqu'à la mort, le droit de la famille et de l'institution matrimoniale, et dans ce cadre le droit pour l'enfant d'être conçu, mis au monde et éduqué par ses parents, ferme la parenthèse, ainsi que la prise de position du Bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes, qui met en évidence le droit des femmes à l'autodétermination de leur corps. Voilà. Donc, prise de position générale du canton du Valais. C'est bien, ils ont mis une enveloppe, et puis ils ont pris les textes de l'évêque de Sion, les textes de l'association Oui à la Vie, et puis voilà, c'est, ils ont mis ça. Bon, disons, c'est bien, en tout cas, on est un peu parrainé. L'association Oui à la Vie a été parrainée par le canton du Valais. Auprès de la de l'office département non comment on appelle ça le département fédéral de la santé non de la police mais de la santé de la police oui, sans doute mais. Prise de position de l'université de Neuchâtel. Oui, il y a toutes les universités ont pris position également, étant consultées. Elles ont beaucoup travaillé d'ailleurs, elles constituent celles qui ont presque le plus produit. Donc, pour l'université de Neuchâtel et de Genève, c'est une dérive idéologique. L'avant-projet, pour eux, va trop loin. Et il dit, l'article, par exemple, l'interdiction du don d'ovules, l'article 24 novièse, ne prévoit pas une telle interdiction, ce que confirment les travaux préparatoires. Nous craignons dès lors une certaine dérive idéologique, qui contredirait d'ailleurs des décisions du peuple suisse concernant ces domaines. Il faut rappeler par exemple que le peuple suisse rejetait il y a 10 ans, à une majorité d'environ 70% des votants, l'initiative pour le droit à la vie, qui entendait fixer le début de la vie à la conception et y attacher une protection étendue, sinon absolue. Je reviendrai là-dessus, juste je voulais en passant une critique de Yad vom Leben, Valais, au sujet de du tourisme procréatique. C'est-à-dire que si les gens peuvent pas, on nous dit, bon ben, il faut pas tout interdire, parce que sinon, si on interdit tout, de toute façon, ils vont aller à Évian, Thonon, pour aller faire ça, ou plus loin. Alors, prise de position du Oui à la Vie, Valais. Si nous ne pouvons pas influencer ce qui se passe hors de nos frontières, il ne faut pas pour autant renoncer à toute tentative d'interdire dans notre pays ce que l'on estime illicite ou dangereux. D'autre part, une loi semi-libérale, comme elle figure dans cet avant-projet, interdit la procréation assistée à beaucoup de personnes qui s'estimeront victimes d'une injustice. Couple concubin, pour le don de sperme, trop âgé. Il y avait un article là, de Mme Badinter, dans le Nouveau Quotidien. Une femme de 60 ans peut être une très bonne mère. Ben oui, enfin... Difficile de prouver le contraire, c'est vrai, on peut être très maternel et puis bien s'occuper d'un enfant d'un an à 60 ans. Bon, il y a quelques inconvénients, mais bon, ma foi, pourquoi pas. Trop âgé, peu fortuné, c'est pas pris en charge par les caisses maladies, ça coûte sans doute, alors ça va sans doute coûter moins cher en France pour aller faire ses courses en France. Et puis, ben, en passant. On ira à l'hôpital d'Évian, il y aura une clinique. Femmes célibataires, donc les personnes exclues, ça va faire des exclus. des lesbiennes, des personnes porteuses d'une maladie, qui ont interdiction d'un diagnostic préimplantatoire, qui ne peuvent pas donc vérifier si l'embryon qu'on va implanter est malade ou bien pas. Et donc ces gens qui peuvent être certaines personnes porteurs de maladies ou bien de tares héréditaires, peuvent être amenés à faire leur diagnostic préimplantatoire à l'extérieur. Il y aura donc toujours un tourisme procréatique. On ne pourra pas empêcher ça. Je reviens sur la prise de position des universités. La loi donne une protection, d'après eux, trop importante à l'embryon. Alors, Neuchâtel, l'université de Neuchâtel, non, canton de Neuchâtel, si l'avant-projet ne donne pas explicitement de statut à l'embryon, il est évident, à lire le rapport explicatif, que ce dernier est une vie humaine, méritant une protection à part entière. Cette disposition adopte le point de vue des initiateurs du « Oui à la vie » de 1985, initiative qui tendait à faire inscrire dans la Constitution que la vie de l'être humain commence à la conception et qui fut pourtant massivement rejetée. Voilà. Eh bien oui, effectivement. Ça, c'est vrai. Université Genève. Prenons la définition de l'embryon, elle pose un problème majeur. Ainsi, tout l'avant-projet de loi tend à la protection de l'embryon, défini de façon implicite comme une vie humaine. La définition donnée à l'article 3 perd ainsi son caractère anodin, puisqu'elle a pour conséquence de fixer le point de départ de la protection accordée à l'embryon comme vie humaine au stade de la fusion des deux noyaux. De plus, alors ils disent après, l'initiative Vue à la vie de 1985, qui tentait de préciser dans la Constitution que la vie de l'être humain commence à la conception, a été massivement rejetée. On ne voit alors pas comment, dans un simple loi d'application d'un texte constitutionnel, on pourrait se permettre de donner une définition d'une telle importance et qui pourrait avoir des conséquences fondamentales dans d'autres domaines en matière d'avortement, notamment. C'est ce que je vous disais, cet avant-projet de loi est effectivement beaucoup plus restrictif que ce qui se fait. Ainsi, tout l'avant-projet de loi tend à la protection de l'embryon, défini de façon implicite comme une vie humaine. La définition donnée à l'article 3 perd ainsi son caractère anodin, puisqu'elle a pour conséquence de fixer le point de départ de la protection accordée à l'embryon comme vie humaine au stade de la fusion des deux noyaux. De plus, alors ils disent après, l'initiative Vue à la vie de 1985, qui tentait de préciser dans la Constitution que la vie de l'être humain commence à la conception, a été massivement rejetée. On ne voit alors pas comment, dans un simple loi d'application d'un texte constitutionnel, on pourrait se permettre de donner une définition d'une telle importance et qui pourrait avoir des conséquences fondamentales dans d'autres domaines en matière d'avortement, notamment. C'est ce que je vous disais, cet avant-projet de loi est effectivement beaucoup plus restrictif que ce qui se fait actuellement, que ce qui correspond à la pratique actuelle, si on le prend à la lettre. Alors que dit l'Université de Genève ? En conclusion, si l'on veut fixer un statut pour l'embryon, il faudrait qu'il y ait un débat à ce propos. Voilà. Il faut que chacun donne son avis. Et puis, on va arriver à un consensus. Enfin, c'est... Voilà, chacun donne son avis. Puis, on va tous se mettre d'accord, c'est clair. Université Neuchâtel. La définition de l'embryon pose aussi des problèmes de cohérence avec les autres définitions. La cellule, qui est le fruit de la fusion des noyaux, est à la fois un embryon, une cellule germinative et une cellule totipotente. D'autre part, la définition de l'embryon est utilisée pour conférer un statut à celui-ci et une protection juridique. L'avant-projet fait de l'idéologie sous le couvert de définition. C'est la prise de position de l'Université de Neuchâtel. Cela fait référence dans l'avant-projet, ces prises de position, au chapitre 2, où on a donné des définitions. C'est un sujet tellement difficile que, finalement, en utilisant le même terme, on pouvait parler de différentes choses, qu'il a fallu donner des définitions. Et je ne pense pas que ce soit aussi... je me trompe peut-être, je ne suis pas légiste, mais je ne pense pas que ce soit aussi poussé dans d'autres lois fédérales. Ce qu'il a fallu faire. Bon, on définit peut-être ce qu'est un cambriolage, ce qu'est un meurtre, sans doute. Mais là, il a fallu définir des entités, des choses, des... Les hommes, enfin. Alors, par exemple, on a donné la définition de procréation médicalement assistée, de gamètes, de cellules germinatives, de cellules totipotentes. Alors là, je vous lis la définition. Les cellules embryonnaires encore aptes à former les cellules les plus diverses d'un organisme. En fait, jusqu'à un certain stade, toutes les cellules sont totipotentes. La première cellule formée, l'embryon, est une cellule totipotente. Et puis, cela va jusqu'à un stade de... Bon, je ne sais plus, enfin, peut-être 8, ou plus, non, beaucoup plus, enfin, jusqu'à un certain stade, jusqu'à l'implantation dans l'utérus. Et là, j'en arrive à un point capital, que je reprendrai après. Définition, on a défini ce qu'était un ovule imprégné. Tiens, d'où ça sort, ce truc-là? On n'en parlait pas dans le texte constitutionnel. Voilà. Alors l'ovule imprégné, c'est l'ovule pénétré par un spermatozoïde avant la fusion des noyaux. Bon, pourquoi ils ont voulu définir ça? On verra ça après. Et puis embryon, le fruit de la fusion des noyaux jusqu'à la fin de l'organogenèse. Ah bah oui, c'est pas pareil alors. Il y a un ovule imprégné et embryon, c'est pas pareil. Ah oui, c'est comme quand vous faites des œufs au plat. Ben, c'est ça, il y a le blanc qui se met ensemble. Les blancs se mettent ensemble, alors il n'y a plus qu'un seul blanc, mais il y a encore deux jaunes. Alors le cuisinier habile pourrait arriver à mettre les deux jaunes ensemble. Alors c'est le stade, c'est l'œuf au plat avec les deux jaunes qui sont encore distincts. Alors les deux noyaux n'ont pas fusionné, ce n'est pas encore un embryon, c'est un ovule imprégné. Et après que les noyaux sont ensemble, eh ben ça devient un embryon. Je m'excuse, je suis un peu dans le désordre, mais bon, avec un truc pareil, c'est difficile de faire du rangement. Je voulais juste l'article 4 de l'avant-projet. La procréation médicalement assistée ne peut être utilisée que lorsque le bien de l'enfant paraît garanti. Là, une certaine réticence de la part de différents organismes consultés qui disent en substance que ben, finalement, l'embryon, il prime, surtout. Et ça, ce n'est pas des choses qui se faisaient. Et normalement, l'embryon ne devrait pas être considéré et protégé indépendamment de la mère. Il y a une autre remarque, c'est l'interdiction du don d'ovules. Alors là, bon, c'est le scandale. Il y a beaucoup de pages, de feuilles à ce sujet. Ben oui, c'est le problème de l'égalité de traitement entre l'homme et la femme. Alors là, ça ne correspond pas du tout aux normes actuelles. On peut donner du sperme, on ne peut pas donner des ovules. Ça ne va pas du tout. C'est ce que dit Canton de Vaud. L'égalité de traitement entre hommes et femmes garantie par la Constitution et le fait qu'une telle interdiction va à l'encontre des évolutions récentes en matière d'égalité entre les sexes. Ouais, oui, effectivement, c'est pourquoi on peut donner du sperme, des spermatozoïdes et puis pas des ovules. L'interdiction du don d'ovule, ça c'est le Valais qui dit ça. L'interdiction du don d'ovule et l'inégalité de traitement par rapport au don de sperme n'est pas justifiée de manière claire et convaincante dans le rapport explicatif. C'est vrai. C'est le problème c'est que pour toutes ces choses-là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. On s'appuie sur des considérations métaphysiques qui sont un peu molles. Ça s'enfonce un peu. Et puis voilà, on interdit. Au nom de quoi? C'est vrai. Difficile à justifier dans une optique libérale. Aussi, un autre point très discuté, donc là aussi c'est le scandale, c'est l'interdiction du diagnostic préimplantatoire. Donc je vous ai expliqué ce que c'était une cellule totipotente. Alors donc, dans l'avant-projet, on interdit au stade des premières divisions cellulaires de l'embryon de prendre une cellule, parce qu'elle est totipotente, on n'a pas envie d'y toucher, c'est assimilé à du clonage. Ils ont assimilé ça à clonage pour analyser cette cellule et puis voir si l'embryon est malade ou bien pas, s'il n'est pas porteur de tare héréditaire. Et là, en fait, je suis très curieux, je suis vraiment de l'avis de tous ceux qui ne sont pas tellement de notre bord, hein, en particulier l'Université de Genève, Neuchâtel, mais ils ont quand même raison. L'embryon in vitro, pour finir, eh ben, il est mieux protégé que l'embryon in utero, dans l'utérus. On a plus de chances de s'en tirer dans l'éprouvette que dans l'utérus. Avec la pratique actuelle, si bien sûr cette loi était appliquée sur la procréation était appliquée telle qu'elle est présentée actuellement. Ils disent assimiler le prélèvement par biopsie embryonnaire d'une cellule potentiellement totipotente à la création d'un jumeau. C'est vrai, c'est ce qui se dit dans cet avant-projet, dont la vie serait condamnée pour un but diagnostique est une interprétation exagérée. Vous voyez, c'est déjà pas très facile de définir l'embryon, de dire ce que c'est. Puis maintenant, on prend cet embryon, on le sépare en deux. Alors, il faut encore définir ce que c'est, le résultat de cette séparation. On s'en sort difficilement. C'est vrai. L'embryon, il a supposons à 8 cellules. On prend une cellule. Bon, bah, c'est à la fois le prélèvement d'une cellule, chose qu'on peut faire chez tout le monde, ou le prélèvement d'un tissu pour l'analyser. C'est des choses qu'on fait couramment en médecine. En médecine, chez tout le monde. Mais c'est aussi séparer une entité. Et donc, cette cellule qu'on a séparée pour analyser, elle peut aussi elle-même donner un embryon, un autre, un jumeau. Vous voyez qu'on est un peu dans une certaine complexité. Le prélèvement d'une, je cite encore, le prélèvement d'une cellule totipotente sur un embryon et son analyse sont interdits. Les buts du diagnostic préimplantatoire sont, enfin bref, donc c'était l'avant-projet. Alors que dit l'Université de Genève? Moi je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils disent à l'Université de Genève. Le prélèvement d'une cellule totipotente à des fins diagnostiques est assimilé dans le rapport explicatif. Oui, parce que en plus c'est dans le rapport explicatif. Hein, à la destruction consciente d'une vie humaine. Alors, en tout état de cause, et une fois acceptée, l'idée que tout diagnostic prénatal, pré- ou post-implantatoire, peut conduire à la destruction de cet embryon s'il est porteur d'anomalies. Alors, à l'Université de Genève, ils disent « Il paraît quand même plus raisonnable d'éviter d'implanter un embryon malade plutôt que de pratiquer plus tard un avortement. » C'est vrai qu'il y a une certaine contradiction parce que maintenant, il y a un certain eugénisme. On fait prénatal, oui, pour la détection d'anomalies. Si l'enfant est, on lui trouve une malformation, une tare chromosomique, s'il est mongolien, on l'élimine. L'avortement est donc systématique au-delà de 35 ans. On discute de baisser ça à 30 ans. Il faut se soumettre à un diagnostic prénatal. Et puis, ça permet d'interrompre. De faire un avortement si l'embryon est mal formé. Puis là, paradoxalement, on empêche de le faire. Vous voyez ? On ne peut plus. En pratique, maintenant, on peut éliminer les enfants mal formés, mais dans l'éprouvette, on ne peut pas les éliminer. On peut pas. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que pour faire le diagnostic, il faut faire une séparation de deux individus, puis là, une création de deux individus. Voilà, l'université de Neuchâtel, ils sont à peu près dans la même ligne que l'université de Genève, je ne sais pas si vous avez remarqué. La cellule totipotente prélevée est appelée dans le rapport explicatif le jumeau. Et par là, est clairement identifiée par les auteurs de l'avant-projet comme une vie humaine à part entière. On retrouve ici l'esprit de l'initiative vue à la vie, qui renverse les valeurs aujourd'hui ancrées dans notre législation, notamment sur l'interruption non punissable de la grossesse. Interdire le diagnostic préimplantatoire conduira inévitablement à des avortements, qui constituent une atteinte incomparablement plus grave à la vie et qui, en outre, présentent certains risques pour la mère et peuvent laisser des séquelles psychologiques pour le couple. Un petit commentaire de cette prise de position à l'Université de Neuchâtel. Un avortement... Ou une destruction d'un embryon, d'un fœtus, plus tard au cours de son évolution, c'est plus grave qu'avant. Il y a un degré de gravité de l'acte est dépendant de la maturité de l'embryon. Si l'embryon est très jeune, c'est pas trop grave. Si un embryon est plus vieux, plus avancé, c'est beaucoup plus grave. Deuxième remarque à ce sujet. Il parle de séquelles psychologiques pour le couple. Là, j'étais surpris parce que je croyais que jusqu'à présent, enfin, on nous avait dit, finalement, l'avortement, c'est pas si grave. Tous ceux qui parlent de séquelles psychologiques, c'est juste pour... donc, c'est des rétrogrades Et puis voilà, non, là, attention, il y a quand même des séquelles psychologiques, voyez. Les critiques de cet avant-projet sont intéressantes. Elles font référence, elles mentionnent des séquelles psychologiques de l'avortement, pour le couple en plus. Pas seulement pour la femme, pour l'homme également. On arrive presque à dire la même chose pour finir, avec le oui à la vie. Ça fait chaud au cœur quand même. Et vous voyez, vous remarquez toujours la référence à l'esprit de l'initiative oui à la vie. Finalement, c'est presque un texte fondamental. On y fait référence sans arrêt dans cet avant-projet. Ce qui est, je trouve ça donc assez intéressant. J'en arrive à la partie essentielle. Je vous lis ce texte essentiel. J'ai perdu. Et donc, voilà, on peut, d'après l'avant-projet, on peut congeler. Vous avez vu, donc on a fait une distinction entre ovule imprégné et embryon. Alors les embryons, on ne pouvait pas les congeler, c'était marqué dans le texte constitutionnel, on ne peut pas le contredire complètement, mais on peut congeler les ovules imprégnés. Quand il n'y a pas encore les deux noyaux qui sont juste là, juste avant, hein, ça dure quand même quelques heures, 24 heures. Alors juste avant, les premières heures, il faut se dépêcher quand même, crac, on peut congeler, ça y est, c'est bon. Ce n'est pas un embryon, on n'a rien fait de mal. Après, il ne faut pas se louper, parce qu'après, c'est vraiment éthiquement pas défendable. Alors, Neuchâtel, c'est le canton, ça. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent, Neuchâtel ? Ils trouvent ça bien. Ils trouvent ça bien, Neuchâtel. Ils disent, l'introduction de ce concept défini comme un ovule fécondé avant la fusion des noyaux, s'il s'écarte de la norme constitutionnelle... Il faut reconnaître, hein, quand même, hein, c'est un peu tiré par les cheveux. Présente du point de vue pratique, faut pas... l'utilitarisme, c'est quand même une philosophie dont on ne peut pas tellement se passer. Donc, présente du point de vue pratique l'avantage de ne pas bouleverser les techniques actuelles de la fécondation in vitro. Ah, enfin, bon, on n'est pas très. C'est pas très net, mais on a sauvé l'essentiel. Les entités à congeler, disent-ils, le seront simplement plus précocement. Bah oui, effectivement. Qu'est-ce qu'ils disent à l'Université de Genève ? L'avant-projet de loi prend une certaine distance par rapport au texte constitutionnel, avec l'introduction de ce nouveau concept d'ovule imprégné. Ils ont remarqué ça aussi. Hein. Que la loi définit comme un ovule fécondé avant la fusion des noyaux par opposition à l'embryon, qui est le fruit de la fusion des noyaux. Alors je cite encore, « On respecte la lettre du texte constitutionnel, pas de conservation d'embryon, tout en détournant le sens de cette interdiction constitutionnelle. » C'est eux qui disent, hein, c'est pas oui à la vie ou bien les excités comme ça, qui sont toujours contre tout le monde et qui votent toujours non pour n'importe quoi. Alors, la justification donnée dans le rapport explicatif est bien maigre sur le plan juridique. Il est simplement glissé que les travaux préparatoires de l'article 24 novies font ressortir que la cryoconservation d'ovules imprégnés est admissible, et cela sans qu'aucune référence ne soit donnée. Bah oui. On interdit le don d'ovules. Bah, en fonction de quoi, en vertu de quoi. Puis là, on autorise la conservation de... Enfin, on ne sait plus comment il faut appeler ça. On sait plus, il n'y a pas de référence non plus, vraiment. Alors, et ils disent aussi... En l'occurrence, le résultat concret, c'est ça qui compte, hein, en fait, auquel arrive l'avant-projet sur ce point précis, n'est pas mauvais. Ils sont dans la... Parce qu'il y avait... C'est classé pour, contre. Donc là, ils sont pour, hein. Il permet, en effet, de continuer la pratique de la fécondation in vitro à peu de choses près, comme elle est effectuée habituellement. Les équipes qui ne le font pas déjà devront simplement congeler ces entités qu'elles désirent conserver un peu plus tôt que ce qu'elles ne faisaient. Bon, ça a vu, quelques complications au niveau technique, un peu plus, engager une laborantine de plus, peut-être, quand même, pour pas louper le coche. Il semble, en effet, que les résultats de la fécondation in vitro avec congélation à ce stade sont moins bons. Ah oui, parce que, et cela aura probablement des conséquences sur leur taux de succès. C'est vrai, ils sont basés... Mais c'est pas cité. Apparemment, personne n'a l'air au courant. Ils se disent, on fait ça avec la congélation d'ovules imprégnés. C'est fait dans un hôpital universitaire. Et on arrive à un résultat légèrement inférieur à l'implantation d'embryons qui ont été congelés puis dégelés. Donc, on ne perd pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils disent encore ? à l'université de Genève, toujours, l'avant-projet de loi lui-même semble avoir assez mal intégré cette notion, puisque la gestion des trois entités, ovule imprégné, embryon, n'arrive pas à se faire de façon systématique. Le don d'ovule imprégné n'est pas mentionné comme interdit. Ouais. De même, l'utilisation post-mortem des embryons n'est pas réglée. Ah bah oui, donc on n'a pas le droit de donner des ovules. Mais finalement, si l'ovule est imprégné, c'est plus un ovule, c'est pas encore un embryon. Comme c'est seulement l'ovule qu'il ne faut pas donner, puis c'est l'embryon, on ne peut pas non plus en faire don, le vendre. Alors entre les deux, bah peut-être, un vide législatif à ce sujet. Vous voyez que ce n'est pas très facile. Qu'est-ce qu'ils disent à canton de Nîmes? Alors oui, il y a les cantons qui ont pris position. Donc les cantons de Nidwald, de Berne, Bâle-Ville, Jura, Obwald, Schwyz sont contre cette disposition. Je trouve ça un peu hypocrite. Le canton de Nidwald est critique. Le canton du Valais n'a pas pris position. Il n'est pas là-dedans. Mais enfin, comme il parle par notre intermédiaire, par l'intermédiaire du oui à la vie, et puis que nous avons pris position, bien sûr. Donc je pense que l'honneur est sauf. Sont absents également les sociétés professionnelles, les sociétés médicales, sauf la FMH, qui dit que bon, c'est un peu tiré par les cheveux, tout ça, qu'on ferait directement mieux de congeler l'embryon, plutôt que se compliquer la vie de cette façon-là. Voilà. Donc c'est surtout les universités qui ont pris position là-dessus. Donc le canton, il est dit encore, l'embryon, donc ça c'est une critique. L'embryon, avant la fusion des noyaux, est protégé, mais avant la fusion des noyaux, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est la porte ouverte aux abus. Donc un chercheur va finalement pouvoir remplir en toute légalité son congélateur avec des soi-disant ovules imprégnés. Quelques heures après la décongélation, les noyaux fusionnent, la vie continue. Et encore une remarque. Sur le texte, le Conseil fédéral peut interdire la conservation d'ovules imprégnés si le développement de la science et de la pratique permet de conserver efficacement des ovules non imprégnés. Ah, c'est curieux. On pourrait appeler ça la morale élastique. Si finalement on arrive avec les progrès techniques à conserver les ovules, eh bien oui, les ovules imprégnés, finalement, c'était pas très bien de les congeler. C'était un peu. Alors là, on pourra interdire. On interdira plus tard. La conservation des ovules imprégnés, à condition qu'on arrive à congeler les ovules à la place. Une morale élastique, ce qui n'est pas bon, ce qui est bon aujourd'hui ne l'est plus après. Une autre chose bizarre. Article 17, développement des embryons, ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules imprégnés nécessaire selon l'état des connaissances scientifiques et pratiques pour induire avec succès une grossesse durant un cycle de la femme. Ça, c'est le principe qui se retrouvait dans le texte constitutionnel. Mais, qu'est-ce qu'ils disent après? Si le transfert prévu ne peut être réalisé, la conservation de l'embryon est exceptionnellement autorisée en vue d'un transfert ultérieur. Alors, vraiment, on n'y comprend plus rien parce que finalement, il faut savoir ce que l'on veut, on autorise ou bien on interdit. La conservation d'embryons, exceptionnellement autorisée. Que dit la FMH? La grande différence que veut établir le législateur entre ovules imprégnés qui peuvent être conservés et les embryons qui proviennent de ces ovules imprégnés, n'est pas très convaincante. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'autre part, l'Université de Genève, toujours elle, il est intéressant de noter par ailleurs que l'avant-projet de loi permet dans des cas exceptionnels la conservation d'embryons. Et ce, en contradiction flagrante avec le texte constitutionnel. Alors, de deux choses l'une, soit on assume la possibilité de conserver des embryons, et pourquoi inventer ce concept d'ovule imprégné? Soit on considère réellement qu'il y a une différence significative entre la conservation d'embryons et celle d'ovules imprégnés. Et pourquoi permettre de conserver quand même celui-ci dans des cas exceptionnels? C'est l'Université de Genève qui dit, qui dit ça. Je continue à citer. Il semblerait plutôt plus cohérent de permettre la congélation d'embryons plutôt que d'inventer ce nouveau concept qui pose de nombreux problèmes. Et là, donc, je vous cite, oui à la vie, Valet. De plus, il est dit que si le transfert prévu ne peut être réalisé, la conservation de l'embryon est exceptionnellement autorisée, en vue d'un transfert ultérieur. Comme il s'agit de techniques ayant un caractère et un but exceptionnel, même si elles sont pratiquées à grande échelle, il est à craindre que ce genre d'exception ne devienne la règle. Voilà, il y aura encore d'autres choses à dire. Je crois que je vais m'arrêter là pour le commentaire, donc mot à mot, de cet avant-projet. Et conclure. Ah, juste une remarque encore, sur le plan pratique, cette histoire d'ovule imprégné, c'est comme. Vous vous rendez compte que c'est assez difficile. Il faudra, je pense, une police spéciale. Alors bon, bien sûr, nos polices cantonales ont déjà des techniques raffinées, sont déjà un grand discernement. Par exemple, avec le radar sur la route, je sais qu'à Bâle, sur une bretelle d'autoroute, 92 km, crac, 60 francs d'amende. 92 au lieu de 80 km, ils arrivent à distinguer. Moi, je ne vais pas. Enfin bon, bref. Le conducteur en question n'avait pas vraiment vu la différence. Parce que quand on prend une bretelle d'autoroute, on regarde à l'extérieur, pas sur le compteur. Et puis, bon, ils arrivent sur la route. On arrive à un certain raffinement dans les techniques policières. Alors, est-ce qu'on va arriver à ça pour faire la distinction entre ovule imprégné et puis embryon? Il faudra créer, je pense, il faudra faire des stages à certains membres, disons, d'élite de la police pour s'entraîner, regarder au microscope et puis vraiment arriver à distinguer le stade entre savoir si c'est vraiment un ovule imprégné ou bien un embryon. Je ne sais pas comment on va faire, parce que si on regarde ça, on le prend dans le congélateur, on le sort, puis on le met sous le microscope pour voir vraiment si le médecin n'a pas triché, ben il va dégeler aussi, puis crac, ça va devenir un embryon. Enfin bref, ça pose des tas de problèmes au niveau. Enfin, je trouve, problèmes techniques. Alors, en conclusion, vous remarquez quand même une chose, c'est que la discussion sur la procréation artificielle, et donc cet avant-projet de loi, a le mérite, il y a quand même quelque chose de positif, il a le mérite de relancer la discussion sur le statut de l'embryon. Il y avait déjà eu une tentative lors des débats sur l'avortement. Vous voyez, cette malheureuse initiative du Oui à la vie il y a 10 ans. Et puis après, la discussion est restée bloquée. Nous n'étions plus, dans le Oui à la vie, autorisés à mettre sur le même plan le droit à la vie de l'embryon et le droit de sa mère à disposer de son corps, disait-on. En fait, c'est-à-dire d'exercer le droit de vie ou de mort sur son enfant. Et bon, c'était mettre en parallèle le droit de l'embryon, le droit de la femme. C'était une atteinte scandaleuse à la dignité de la femme. Donc, on crie au scandale. Quand on crie au scandale, ben, on est déjà un petit peu disqualifié. On n'arrivait pas tellement à se faire entendre. D'autre part, l'avortement se fait dans le corps de la femme. Pour les partisans de la libération de l'avortement, il s'agit d'un acte individuel. Et de ce fait, savoir si l'embryon est une personne ou non, c'est une question philosophique. C'est un problème privé. Ça ne concerne que les consciences des gens en privé. On nous dit, vous n'avez pas le droit d'imposer votre point de vue à des gens qui ont une autre opinion, une autre façon de voir, une autre conception sur cette question. Mais maintenant, avec la fécondation in vitro, la procréation artificielle, l'embryon, il est séparé du corps de la femme. Alors, il y en a des dizaines de milliers d'embryons orphelins. On cite le chiffre de 52 000 en Angleterre, 30 000, enfin c'est des dizaines de milliers, 30 000 aux États-Unis, qui sont ces embryons orphelins, par dizaines de milliers, qui sont stockés dans les congélateurs. Ils ne sont plus dans le corps de la femme, dans l'utérus. Et puis, en général, leur date de péremption, elle a été fixée à 5 ans après leur conception. Alors quand il faut détruire des dizaines de milliers d'embryons, il faut quand même faire de la place dans les congélateurs. Bon, ça prend pas beaucoup de place, je crois, mais c'est tout petit. Mais il faut quand même faire de la place. Puis bon, il y a une date de péremption, c'est au-delà de 5 ans. Légalement, on ne peut pas. Donc quand il faut détruire des dizaines de milliers d'embryons, ce n'est plus vraiment un acte individuel qui regarde la conscience de chacun en privé. En fait, c'est toute la société qui procède à un immense avortement collectif. Alors, je crois que nous devons être conscients de ça et profiter de ce phénomène pour relancer la discussion sur le statut de l'embryon et à nouveau affirmer que la vie humaine commence dès la conception. Le deuxième point de ma conclusion, c'est que malgré ces aspects positifs, il faut le reconnaître, malgré les aspects positifs de cette loi, ou de cette ébauche de loi, celle-ci ne tiendra pas le choc comme elle est là. Elle contient trop d'hypocrisie, de contradictions, d'incohérences, comme vous avez pu le voir ou l'entendre. Elle contient en elle-même tous les éléments qui permettent de la contourner. Vous voyez, elle est comme une porte qui est fermée à clé. Puis dessus, il y a un gros écriteau, interdiction d'entrée. Ah, bon. Et puis vous regardez un peu plus près, mais il y a la clé qui est restée sur dans la serrure. Et puis si vous regardez encore mieux, il y a une étiquette après la clé, c'est marqué. Mais enfin, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez entrer. Alors voilà la loi qu'on a. Donc elle contient tous les éléments en elle-même qui permettront de la contourner, puis de la modifier. C'est ce qu'on observe actuellement pour la législation de l'avortement. Finalement, cette loi, effectivement, c'est vrai, c'était hypocrite. Dans un canton, on faisait comme ça. Dans l'autre, on faisait tout à fait différemment. Alors, ça ne correspondait plus à la pratique. La loi n'était plus respectée. On abolit la loi. On en fait une autre qui correspond à la pratique actuelle. La loi précède, la loi suit la pratique. Elle ne précède pas la pratique. Alors, quand on veut protéger un village qui est menacé par les avalanches, on installe des paravalanches. Et pour qu'un paravalanche soit efficace, ben, il ne faut pas le mettre n'importe où. On le met tout de suite au point de départ de l'avalanche, à la source. Vous voyez, si on met le paravalanche quelques centaines de mètres plus bas, il a peu de chances d'être efficace, il sera emporté, comme tout le reste, par l'avalanche. Donc, il faut mettre le paravalanche au bon endroit. Et ce paravalanche, à mettre au bon endroit, c'est cette initiative populaire qui interdit la procréation artificielle et l'utilisation des spermatozoïdes, des gamètes de tiers, spermatozoïdes et ovules, à des fins de procréation artificielle, qui est intitulée « L'initiative pour une procréation respectant la dignité humaine ». Donc, qui a recueilli le nombre suffisant de signatures et qui est en attente d'être soumise au référendum. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention.